Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute première émission d'Évasion des mots sur CELLAB 88.4 FM. Je suis Toufi Guetna, votre hôte, et aujourd'hui pour cette grande première, nous allons plonger ensemble dans des univers littéraires fascinants avec des auteurs qui nous bousculent, nous interrogent et nous transportent à travers leurs écrits. Dans cette émission, nous commencerons par évoquer l'œuvre de Kamel Daoud et son livre « Huri », un ouvrage qui a suscité un vif débat aussi bien en Occident qu'en Algérie. Qui est-ce qui fait tant réagir? Nous en discuterons ensemble. Ensuite, nous aurons le plaisir de découvrir le roman de Nadia Alcaraz, le versant obscur de l'histoire, un récit intense et personnel qui plonge dans des variétés enfouies des événements marquants. Et pour finir, nous accueillerons Béatrice Rionnier qui nous parlera de son engagement au sein du comité de lecture de la Maison Bleue à Rennes. Un programme riche en découvertes littéraires et en échanges passionnants, alors restez avec nous, c'est parti pour Évasion des mots. Légère sur les feuilles d'un arbre en été. Je me souviens de cette sensation, où mes pensées prennent vie et s'épanouissent dans l'encre noire. Chaque trait sur le papier ouvre une porte vers un univers insoupçonné. Chaque mot vibre, résonne comme un battement de cœur dans le silence. L'écriture devient alors une passion ardente, une obsession qui embrase tout. Mon refuge face au tumulte quotidien, mes rêves prennent forme, mes aspirations s'envolent. Chaque récit tissé m'emporte loin des contraintes du réel vers des contrées où l'impossible se mêle à la réalité. Au fil des ans, l'écriture s'affirme comme l'essence de mon existence, le souffle qui anime mes jours et mes nuits. Guidé par cette intensité, je m'engage dans l'entreprise la plus audacieuse, écrire. Pas une histoire ordinaire, un reflet profond de mon être, une exploration de mes rêves, de mes peurs, de mes secrets. C'est un défi. Une quête pour moi et pour ceux qui croient en la magie des mots. Chaque mot devient un fragment de mon âme, une fenêtre ouverte sur mes émotions, une tentative de saisir l'éphémère et de le transformer en éternité. À travers mes pages, j'invite mes lecteurs à plonger dans le monde que j'ai façonné, à explorer les dédales de mon imagination, à rencontrer des personnages envoûtants, à découvrir des univers enchanteurs. Derrière chaque pensée se cache une part de moi. Une part de cette recherche inlassable de vérité et de signification. Que notre périple commence, que chaque tour de page soit une invitation à explorer l'inconnu, à accueillir l'inattendu, à plonger dans la magie de l'imagination. Belson, errance d'un écrivain.
Évasion des mots. Mais évasion de quoi? Évasion de soi? Évasion du rien? Ou juste l'évasion d'un livre qui refuse de se terminer?
Chère auditrice, cher auditeur, aujourd'hui, je vous emmène dans l'univers poignant du dernier roman de Kamel Daoud, intitulée Hurry. C'est une œuvre puissante qui aborde un chapitre navrant de l'histoire algérienne, les années noires de la guerre civile, marquées par l'affrontement entre l'armée et les islamistes. Kamel Daoud, connu pour son regard acéré et sa plume souvent controversée, nous livre ici une exploration intime des séquelles laissées par cette période sur les individus et sur la société. Le personnage central, Hob, est une survivante, rescapée d'un massacre qui a laissé des traces profondes dans son âme. À travers son parcours, Kamel Daoud nous plonge dans une quête de mémoire et de réconciliation. Hob décide de retourner dans son village natal, là où tout s'est joué, espérant une forme de rédemption, peut-être même de retrouvailles avec une partie d'elle-même qu'elle a perdue. Mais ce retour n'est pas facile. Il est rempli de doutes, de douleurs et d'une sorte de folie que représente cette quête de retourner sur les lieux d'un passé traumatisant. Le roman est un mélange subtil de fiction et de réflexion historique. Il ne s'agit pas d'un simple récit des événements passés, mais d'une méditation sur la manière dont la mémoire collective et personnelle s'entrelace, laissant des cicatrices ouvertes. À travers les yeux d'Hop, nous percevons la difficulté de trouver une place après avoir été témoin d'horreur. Le personnage se demande constamment si la vie après la tragédie peut être synonyme de renouveau ou si elle est condamnée à revivre les fantômes du passé. L'écriture de Daoud est exigeante, avec des phrases riches en émotions et en symboles qui résonnent longtemps après la lecture. Il parvient à capturer l'intériorité de son personnage avec une grande sensibilité, nous immergeant dans son tourment et sa résistance. Cette écriture, dense et introspective, ne laisse personne indifférent. Elle appelle le lecteur à se confronter à des questions universelles, celles du sens, de la souffrance, de la survie et de l'impact des conflits sur l'identité. Vous avez sans doute remarqué que je prononce Hurry avec l'accent algérien plutôt que Houri. En Algérie et dans beaucoup de pays du Maghreb, on prononce bien Hurry avec un H plus marqué. Les Hurry, pour rappel, sont ces créatures célestes promises aux croyants au paradis, un concept issu de la tradition islamique. Leur interprétation varie selon les époques et les contextes. Et Kamel Daoud en propose ici une vision très personnelle, à contre-courant des discours classiques. Et maintenant, nous allons évoquer un autre aspect du livre, qui à mon sens mérite une attention particulière. Il y a des livres que l'on admire sans vraiment les adorer, et Hurry fait partie de cela. Kamel Daoud a choisi les mots pour affronter le silence, pour dénoncer un épisode brutal de l'histoire algérienne. Cependant, bien que ce roman ait une force incontestable et qu'il traite d'une page d'histoire essentielle, il est difficile de ne pas ressentir un certain éloignement par rapport au récit. Le poids du symbole semble parfois écraser l'histoire. On sent constamment l'intention de l'auteur derrière chaque ligne, ce qui nous empêche de nous plonger entièrement dans la fiction. Le style, bien que poétique et percutant, manque parfois d'aération. Il est si chargé de symbolisme et de gravité qu'il devient presque étouffant. Aucune touche d'humour, aucune pause pour respirer, ce qui certes correspond à la violence du sujet, mais finit par alourdir la lecture. Ce manque de légèreté rend l'œuvre éprouvante, difficile à digérer, même pour un lecteur averti. En outre, certains critiques estiment que Hurry est prisonnier d'une vision extérieure. Daoud, en abordant cette période sombre de l'histoire, semble parfois répondre davantage aux attentes d'un public occidental qu'à celles de ses compatriotes. Sa manière d'exposer les atrocités, bien que fidèle aux faits historiques, donne parfois l'impression d'une surenchère émotionnelle, comme si chaque scène était là pour choquer, pour frapper, plutôt que pour permettre une véritable réflexion. Finalement, Hull est un roman que l'on admire pour son audace, son courage de dire l'indicible, mais qui peut laisser certains lecteurs à distance. On reste impressionné par la puissance du propos, mais il est difficile de s'immerger totalement dans ce récit, tant la souffrance semble omniprésente, sans échappatoire. C'est un livre que l'on referme avec un sentiment d'admiration, mais aussi d'épuisement, car la gravité du sujet ne laisse que peu de place à autre chose qu'à la douleur. Alors, mes amis, vous l'aurez compris, Hull est une œuvre marquante, peut-être même indispensable, mais qui exige du lecteur une grande endurance émotionnelle. Que vous l'aimiez ou non, vous ne sortirez pas de cette lecture indemne. Il s'agit d'un roman qui questionne, qui dérange, et c'est là, en fin de compte, ce que la littérature peut offrir de plus puissant. Merci de m'avoir écouté, et je vous encourage à découvrir ce livre non seulement pour son sujet, mais pour ce qu'il représente dans le paysage littéraire actuel. À vous de voir. Si Hull saura vous captiver, vous laisser à distance.
Il est là, toujours le masque, silencieux, immobile. Il se fond avec le visage. Au début, limite l'ombre discrète. Une illusion, une barrière fine entre toi et lui. Tu regardes, mais tu ne vois que la surface. Une surface polie, rassurante comme une mer calme. Tu crois qu'il est là pour protéger, pour embellir ce qu'il recouvre. Mais c'est là que tout commence. Le masque ne tremble pas, ne scie pas. Il sait attendre, il sait jouer. Il séduit sans jamais se révéler. Il glisse entre les regards, se faufile dans les mots. Et tout ce qu'il touche semble devenir plus doux, plus simple. Mais ce que tu vois n'est qu'un reflet, une construction soigneusement ajustée. Un masque n'est jamais là par hasard. Il sait ce qu'il doit montrer, ce qu'il doit cacher. Alors tu t'approches, tu t'interroges. Ce sourire est-il vrai? Ce regard est-il sincère? Ou n'est-ce qu'un jeu de lumière sur une surface bien trop lisse? Car le masque, il est parfait. Et c'est la perfection qui dérange. Peut-on vraiment être sans faille? Peut-on se tenir toujours droit, sans jamais vaciller? Les contours du masque s'entremettent trop bien dessinés, comme s'il avait été forgé pour tromper, pour capturer, pour tout garder pour lui. Le masque ne fait que refléter ce que l'on veut voir. Il donne un peu l'impression de s'ouvrir, de se tendre vers toi. Mais en réalité, tout revient vers lui. Tout est pour lui. Sous ce vernis, il y a une fin, et tu ne la vois pas, du moins pas tout de suite. Une fin de plus de regard, de plus de pouvoir, de plus de reconnaissance. Mais cette fin ne crie pas, elle attend patiente, tranquille, sous la surface. Et toi, tu continues de regarder ce masque. Tu te dis qu'il pourrait tomber, qu'il pourrait laisser voir ce qu'il y a en dessous. Mais il reste en place, fermé, inviolable. Car le masque, il ne s'enlève pas. Il fait partie de celui qui le porte. Et même lorsque la lumière s'éteint, lorsque les regards se détournent, il est encore là, accroché, fusionné. Tu le vois maintenant. Ce que tu croyais être un simple ornement est devenu une seconde peau. Une peau qui n'a jamais voulu être autre chose qu'un écran. Un écran entre toi et lui. Le masque ne montre rien. Il protège, oui, mais pas contre le monde. Il protège celui de lui-même. Et toi, tu continues d'observer, espérant un jour voir ce qu'il y a derrière.
Pour la suite de notre émission, je vous propose une rencontre avec Nadia Alcaraz, auteure du roman Le versant obscur de l'histoire. J'ai eu la chance de l'interviewer chez elle, car Nadia ne peut pas se déplacer facilement. Au cours de notre échange, nous avons surtout parlé de son livre, un récit profond et touchant, où elle explore des thèmes complexes avec une grande sensibilité. Un moment à ne pas manquer pour découvrir davantage sur son univers littéraire. Messieurs, dames, nous avons avec nous Nadia Alcaraz, écrivaine qui habite dans le quartier de Vigeon à Rennes. Bonjour Nadia.
Bonjour Tariq.
Nadia, merci de nous rejoindre. Pour commencer, pouvez-vous nous dire ce qui vous a inspiré à écrire le versant obscur de l'histoire? Y a-t-il un événement ou une expérience personnelle derrière cette œuvre?
Alors, en fait, c'est un livre qui est la suite de mon premier livre. J'en ai écrit 7 depuis. Et c'est un livre qui est un peu une réponse à tous les lecteurs qui m'ont dit « Et après ?» Tu racontes ton enfance en Algérie, tu racontes ta rage en arrivant, mais après, qu'est-ce qui s'est passé après ? Et j'ai mis très longtemps à réussir à écrire ce livre. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai eu une période extrêmement dure en arrivant en France. D'une part parce que j'étais très mal accueillie par les Français, en particulier les lycéens et les enseignants, puisqu'on était des gens qui avaient fait suer le Bermous. Donc il y a ça. D'autre part, comme j'étais en conflit total avec ma famille par rapport aux idées de la famille, puisque je suis issue d'une famille de colons, racistes, antisémites, etc. etc. Donc je me suis retrouvée complètement seule à affronter cette période. Et je m'en suis sortie grâce à une rencontre. Et c'est cette rencontre qui a duré un an, qui m'a sauvé la vie et que je raconte dans
ce livre.
Mon dernier livre.
D'accord. Avant de parler de cette personne, donc, je veux commencer d'abord par le titre. Le titre de votre roman est intrigant. Pourquoi avoir choisi le versant obscur de l'histoire et que symbolise ce versant pour vous ?
Eh bien, pour moi, le versant obscur, c'est d'une part le fait que beaucoup de choses ne sont pas dites par les historiens, que on oublie trop souvent que dans l'histoire, il y a les vainqueurs, les vaincus et les survivants. Et pour moi, ce sont ces survivants qui ont conscience de ce versant-là de l'histoire. Donc, ce n'est pas un jugement par rapport aux histoires, non. Mais je pense que dans toute histoire, dans tout combat, dans toute révolution, il y a un versant auquel le grand public n'a pas accès et qui donne des gens fracassés par l'histoire.
On va parler du personnage Théo et Mathilde, qui sont les personnages principaux du roman. Et ils semblent profondément marqués par leur passé. Pouvez-vous nous parler de leur relation, de ce qu'ils représentent pour vous dans le récit ?
Alors Mathilde, c'est moi. J'ai choisi de projeter sur un personnage, mais c'est autobiographique. Mathilde, c'est moi, avec tout le mal-être que j'ai pu trimballer à mon arrivée en France, qui s'est traduit par des tentatives de suicide, la dépression, vraiment, c'est moi. Et Théo, c'est un personnage qui n'est pas un personnage de fiction, voilà, dont je n'ai pas mis le nom exact, mais qui est un véritable héros de la résistance.
Qui a existé.
Oui, absolument, tout est vrai. Que j'ai rencontré alors qu'il avait 80 ans, un journaliste, et je crois qu'avec Théo, j'ai vécu vraiment une relation, je dirais entre guillemets, d'amour. Cet homme a appris énormément de choses. Toute sa famille a disparu dans le camp. Ça a été un héros du Vercors. Grand chirurgien. Et il m'a vraiment sauvé la vie.
Dans votre roman aborde des sujets sensibles comme la guerre, l'exil, les cicatrices invisibles laissées par l'histoire. Comment avez-vous approché ces thèmes sans tomber dans le pathos tout en conservant une écriture aussi délicate?
Eh bien, d'abord, je déteste le pathos et le misérabilisme. Donc, c'est vrai que j'ai mis tout ça à distance. Mais c'est aussi Théo qui m'a appris à mettre à distance et à regarder l'autre qui peut être l'ennemi, qui peut être quelqu'un dont les idées sont complètement opposées aux nôtres, à le regarder avec une empathie, en essayant de comprendre, en particulier par rapport à ma famille. J'ai compris que c'était toute leur éducation là, qui avait fait des colons. Alors, échapper au pathos, je crois que j'ai pas eu mal échapper au pathos. Parce que d'abord, Théo, c'est quelqu'un qui était en même temps très fort et très drôle, qui avait un sens de l'ironie, de l'absurde. C'est aussi un livre sur l'absurdité.
L'absurdité, hein. Oui.
Et qui avait justement cette préoccupation d'avoir avec moi une relation de gaieté, de joie, de redécouvrir de la vie autrement. Donc, j'ai pas de mal hein, au niveau écriture.
Oui, ouais. Le silence joue un rôle crucial dans votre récit, notamment dans les moments de réflexion de vos personnages. Quel est le sens de ces pauses, ces silences dans l'historique, dans l'histoire que vous racontez?
Ah, bien ça d'abord, par rapport à Théo, c'est quelqu'un qui, quand on lui posait certaines questions, restait silencieux un grand moment avant de répondre. Moi, au début, ça m'agaçait profondément. Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, en mettant moi aussi en pratique ce silence, ça me permettait d'avoir un discours plus cohérent, plus réfléchi, et de ne jamais réagir au premier degré. C'est ça, en fait. Donc ces silences ont presque autant de poids que la parole, que l'histoire. Mais je crois que dans la vie courante, je continue à mettre ces silences en pratique.
En pratique, ouais.
Je pense.
L'introspection et la résilience sont au cœur de votre roman. Selon vous, en quoi la révolte intérieure de Mathilde face à son passé est-elle un moteur pour sa reconstruction?
C'est ce que Théo m'a enseigné. Moi, j'étais une boule de colère. J'étais une boule de colère parce que j'avais découvert que toute mon éducation était construite sur des bases fausses, qu'on m'avait menti, que la guerre d'Algérie n'était pas ce que ma famille voulait me faire croire, que mes enseignants voulaient me faire croire, dont j'étais une boule de colère. Et cette colère, Théo m'a appris à en faire autre chose. C'est-à-dire que la colère, la rébellion, peut être quelque chose de constructif pour une personne. Et je pense que par rapport aux jeunes d'aujourd'hui, c'est un enseignement important de dire ne traduis pas ta colère par des passages à l'acte violent. Essaye d'en faire une arme pour convaincre les autres. Je ne dirais pas changer le monde, parce que c'est un peu stupide et prétentieux, mais cette colère, effectivement, on peut la reconvertir tout en la conservant intacte. Parce que j'ai toujours en moi cette même colère par rapport à ma famille, mon pays, qui était l'Algérie de pieds noirs, et par rapport à tous ceux qui en reflètent une image fausse. Donc la colère est intacte, mais on peut en faire quelque chose. Et des livres, entre autres.
Bien sûr. On va parler du style d'écriture de votre livre. Il est à la fois simple et puissant. Comment travaillez-vous cette simplicité qui touche en profondeur vos lecteurs ?
Oh ben d'abord, il faut savoir pour qui on écrit. Alors moi, je déteste l'écriture intellectuelle qui ferait que on utiliserait un style classique avec une... Je peux le faire.
Parler du style académique.
Oui. Élitiste. Voilà. Et c'est pas du tout mon truc. Moi, je veux dire que tout le monde, y compris ma petite voisine marocaine qui est libre, entende ma voix. Sur le ton que j'essaye le plus simple, le plus normal, le plus accessible possible. Parce que ce que tu me dis là, c'est qu'effectivement, j'ai une façon d'écrire particulière. On me dit, c'est simple, mais j'essaye aussi de toucher l'émotion. Pour moi, il n'y a que l'émotion qui peut changer les autres. Ouais. Dans un spectacle, dans la lecture. Donc, provoquer l'émotion, c'est pas forcément avec de grandes phrases qu'on va provoquer l'émotion. C'est justement avec du silence, avec des choses brèves, percutantes, simple.
Ouais.
C'est tout un travail sur l'émotion que j'ai fait depuis longtemps. Malraux a dit la seule chose qui peut convaincre les autres, ceux qui ne pensent pas comme nous, qui peut les bouger en profondeur, c'est l'émotion. Par contre, je déteste tout ce qui est larmoyant, pathos, comme tu disais. C'est pas du tout ça pour moi. L'émotion, c'est autre chose. C'est chez le lecteur, pas chez moi. C'est ce qui percute. Voilà.
Qui attire. Pouvez-vous nous parler de la façon dont vous avez construit le monde intérieur de vos personnages, notamment leurs souvenirs et leurs blessures, tout en laissant une place importante à l'imagination du lecteur ?
Ah, c'est une question compliquée.
Bon, on peut passer.
Effectivement, c'est un travail sur la mémoire. C'est un travail sur la mémoire, sur ce qu'on peut transmettre, ce qu'on ne peut pas transmettre. Théo n'a jamais réussi à écrire son histoire. Par contre, il me l'a raconté à moi qui avais 16 ans. Et c'est une histoire qui est violente, qui est dure, qui est compliquée. Et à mon tour, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire de ça? De la mémoire de quelqu'un. Est-ce qu'on me l'a raconté pour que je le transmette? C'est très compliqué ta question, Twig. C'est très compliqué. Redis-moi la question.
C'était, pouvez-vous nous parler de la façon dont vous avez construit le monde intérieur de vos personnages, notamment leurs souvenirs et leurs blessures?
Je l'ai laissé venir, ce monde. Je n'ai pas construit le monde. En fait, Théo et Mathilde, c'est la découverte de l'un par l'autre de deux mondes totalement différents, de deux parcours totalement différents, mais avec des points essentiels de rencontre. Tous les deux sont exilés. Tous les deux ont traversé la guerre. Théo en a traversé deux. C'est-à-dire que c'est sur des points essentiels que je m'appuie pour le récit. J'ai laissé les choses arriver pour l'écriture.
Pour l'écrire, ouais.
En essayant de me rappeler le plus précisément possible des événements de cette rencontre, comment petit à petit on est arrivé à se confier l'un à l'autre. Mais cet homme m'a sauvé la vie.
C'est dit, ouais.
Alors, c'est un homme de 80 ans, il faut le dire. Moi, j'avais 16 ans et j'étais très amoureuse de cet homme.
Satan.
Qui est mort au bout d'une année. C'est une relation qui a duré une année.
Votre roman invite à la réflexion sur le passé, sur l'identité. Quel message espérez-vous que vos lecteurs retiendront de cette exploration du versant obscur?
L'identité, je ne sais pas trop ce que veut dire le terme identité. Je pense que chacun de nous se construit une identité à partir de tellement de vecteurs, de lectures, d'apprentissages, de rencontres. Donc, pour moi, il y a autant d'identité que d'êtres humains. Et je crois que chacun doit avoir à cœur de se construire une identité en gardant en tête que l'essentiel, c'est de rester humain et d'avoir sur les autres un regard d'humain à l'humain.
À l'humain. Alors, pour finir, pouvez-vous nous dire ce que vous préparez pour la suite? Avez-vous d'autres projets littéraires en cours?
Alors, c'est une question que je déteste.
Vous pouvez ne pas répondre.
Mais après ce livre, j'ai eu le sentiment que non pas que j'avais plus rien à dire, mais que tout était dit. Donc, j'ai beaucoup de mal à rebondir sur autre chose. Parce que là, c'est que l'autobiographie, comme mon premier livre, La Rage.
La Rage fuit Pompéi, d'accord.
Et je veux repasser au roman, aux nouvelles, et c'est très compliqué. Donc j'ai commencé quelques nouvelles sur la mort. La mort, les morts, c'est-à-dire comment, en quelles circonstances, dans ma vie, j'ai pu rencontrer la mort. Et qu'est-ce que ça a produit chez moi? J'ai commencé, mais c'est une ébauche. Juste une ébauche.
Ben, on arrive à la fin de cette interview. Merci beaucoup, Nadia.
C'est très compliqué, cette question.
On se retrouve peut-être la prochaine fois pour, pourquoi pas, pour présenter un autre livre de Nadia Alcaraz. Je rappelle le livre de Nadia Alcaraz, donc Le versant obscur de l'histoire, qui est paru aux éditions Edna.
Il ne voit plus. Il ne sent plus. Non, ce n'est pas que ses yeux sont fermés et que ses mains sont vides. C'est autre chose plus profond. Le monde s'efface doucement comme un brouillard qui engloutit tout. Les couleurs, elles sont là, mais elles ne lui parlent plus. Les sons, ils résonnent au loin comme des échos dans un tunnel sans fin. Mais qu'est-ce qu'un son quand il ne touche plus l'âme? L'âme. Il regarde mais ne voit rien. Le ciel pourrait être bleu, noir ou en feu, il ne le sait pas. C'est le regard qui est fatigué, pas seulement les yeux. Et dans cette fatigue, tout perd son éclat. Le monde continue, il n'en fait plus partie. La douceur du vent, le parfum des fleurs, ce sont des souvenirs maintenant. Des souvenirs qui flottent, mais qui n'ont plus de poids. Comme des mots oubliés dans une langue qu'il ne comprend plus. Et les émotions, elles sont parties les premières. Peut-être qu'elles ont fui quand il a cessé de se laisser toucher. Peut-être qu'elles se sont dissoutes petit à petit comme du sel dans l'eau. Il est là, mais il n'est plus vraiment là. Il entend, mais n'écoute plus. Il respire, mais ne sent plus. Il est devenu une ombre, un reflet de ce qu'il était. Et la beauté, elle pourrait danser autour de lui. Elle pourrait crier, elle pourrait lui offrir tout ce qu'elle a. Il ne la verrait pas. Il ne la sent pas. Elle est invisible, inaudible, absente. Tout s'estompe, tout devient gris, tout se confond. Le goût, plus rien n'a de saveur. Les textures, un toucher lisse, sans relief, sans différence. C'est comme si tout était devenu une seule et même chose, rien. Amorphe, il flotte dans une mer sans vagues. Les jours passent, mais il ne laisse plus de traces. Il ne sait même plus quand le dernier sourire a disparu. Et quand la lumière s'est éteinte. Le monde n'a pas changé, c'est lui qui a fermé les portes.
Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Béatrice qui va nous parler du groupe de lecture de la Maison Bleue, une initiative qui a vu le jour en septembre 2017. Béatrice, merci d'être avec nous. Pour commencer, pouvez-vous nous expliquer comment est né ce groupe de lecture et quelles étaient vos motivations à l'époque ?
Alors en fait, moi je suis venue ici à un vernissage voilà, j'avais déjà fait partie d'un groupe de lecture privé en ville, voilà, dans la ville de Rennes. Et finalement, bon, je voulais un peu faire autrement, voilà. Et je me suis dit, ben pourquoi pas, on va voir si dans ma maison de quartier, il y a déjà un groupe de lecture. Or, il n'y en avait pas. Il y en avait eu un qui s'était arrêté au bout de 1 ou 2 ans, il me semble, mais depuis un certain temps. Et donc, voilà, on m'a dit, ben, si tu as envie de créer ce groupe, eh ben, pourquoi pas, lance-toi. Alors, je me suis lancée. Et voilà, donc, la Maison Bleue, le directeur Pascal Bloutin, et puis Clairvie Lenagar, qui est médiatrice culturelle, voilà, m'ont autorisé, m'ont aidé, voilà, à monter ce groupe de lecture.
Comment avez-vous fait face aux défis, notamment pendant la période difficile du Covid ?
Alors ça a été un peu compliqué pendant le Covid, parce que finalement, forcément, tout s'est arrêté, parce qu'ici, tout s'était arrêté aussi. Donc, on communiquait par mail. Et en fait, c'était assez sympa, parce que finalement, pendant cette période-là, c'est vrai que moi, je recevais aussi d'amis ou de famille, des textes, rigolos, un peu, écrits, en français, par des auteurs qui probablement, inconnus, hein, qui s'amusaient à manipuler le français, à manier le français. Et donc, voilà, on se transmettait tout ça. C'était même assez créatif finalement. Bon, moi j'ai trouvé ça que c'était assez marrant. Puis bon, ça nous changeait notre quotidien un peu, voilà, morose et puis un peu isolé, quoi.
Comment s'organisent vos rencontres actuellement ?
Alors actuellement, on se retrouve comme depuis toujours d'ailleurs, le troisième jeudi du mois. Jusqu'à présent, c'était à 18h30. Bon, à peu près, ça se termine à 20h, cette année, on a décidé de commencer plutôt à 18h45 pour donner la possibilité aux personnes qui travaillent d'avoir plus de temps pour arriver à la Maison Bleue, en espérant qu'en effet, ces personnes-là seront intéressées et puis nous rejoindront.
Est-ce que tout le monde est invité à ces rencontres ou est-ce que ce sont que des membres de la Maison Bleue ?
Alors, il faut prendre son adhésion à la Maison Bleue, voilà. L'adhésion est de 20 €. Et après, en effet, on peut donc participer, être membre du groupe de lecture. Voilà, on est à peu près une dizaine. Voilà, il y en a, d'ailleurs, j'ai regardé dans mes archives, il y en a 5 qui sont... qui sont là depuis le début, donc voilà, la moitié. Après, les gens bougent, voilà, il y a des selon leur vie, voilà. Donc il y en a d'autres qui arrivent, il y en a certains qui partent, il y en a d'autres qui arrivent, voilà.
Comment choisissez-vous les livres que vous lisez tout au long de l'année ?
Alors voilà comment ça se passe. En fait, le premier jeudi donc du mois de septembre, parce qu'on se réunit sur l'année scolaire, hein, voilà, donc de septembre à juin. Donc le premier jeudi, on se retrouve et puis on arrive avec des titres de livres, voilà. Et après, chacun présente les livres qu'il souhaiterait pouvoir lire pendant l'année. Et à peu près 1 ou 2 chacun. Et puis après, on choisit après les présentations. Quelquefois, il y en a qui sont présentés 2 fois, parce que forcément, voilà. Donc, c'est pas une question de prix littéraire, en fait. C'est plus une question de ce qui nous a interpellés pendant les vacances, voilà. Et puis, on est... Alors, cette année, donc, on a, par exemple, on a choisi... Au soir d'Alexandrie de Ala El Aswani, voilà. Alors en fait c'est moi qui l'ai choisi parce que j'ai envie de repartir en Égypte. Alors l'année dernière je suis partie au Japon, alors j'ai lu beaucoup de littérature japonaise et donc là j'ai envie de repartir en Égypte parce que j'y suis déjà allée mais ça fait longtemps. Bon, j'espère que je pourrai y aller et donc voilà, je me suis plongée là-dedans. Maintenant aussi Bad Gens de Delphine Minoui. Alors, Bad Gens, en fait, c'est un livre sur les femmes en Iran, voilà. Et pour moi, c'est mon rêve d'aller en Iran, mais je suis pas sûre qu'un jour j'arriverai à y aller dans ma vie, parce que bon, c'est quand même un pays très compliqué. Sinon, il y a Bien-être de Nathan Hill, voilà, d'ailleurs, c'est une femme qui fait partie de notre groupe de lecture, son mari est médecin, vous voyez, bon, voilà, donc elle est intéressée par ce livre. Frapper l'épopée de Alice Zénitaire, on a lu d'autres livres dans le groupe de Alice Zénitaire et on aime beaucoup cet écrivain. Voilà. Kif Kif Hier de Faïza Gwen. Alors, je ne sais pas si on dit Gwen ou Gwen. Bon, moi, je ne connais pas. C'est l'une de nous qui a souhaité. La Méduse Noire de Yann Kefelek. Bon, et puis, bien sûr, la Méduse Noire de Yann Kefelek. Parce que, bon, voilà, c'est un Breton, donc quand même, voilà. Et puis d'ailleurs, il y a une autre personne. Enfin, on était aussi intéressés par... Ressac, Jour de Ressac de Maïlis de Kerangal, mais là il n'est pas dans la liste parce que quelqu'un l'a acheté, donc elle dit ben moi je vous prêterai, donc voilà, bon c'est comme ça que ça se passe. L'impossible retour de Amélie Nothomb, parce que pour nous c'est une c'est un incontournable, Amélie Nothomb tous les ans. Tata de Valérie Perrin, parce qu'on a tous lu Changer les fleurs. Et même si c'est un livre qui est assez bon, dense et assez bon, il y a beaucoup de pages, en fait, on a tous adoré. On s'est dit, bah, tiens, Valérie Perrin, pourquoi pas. Tenir debout de Mélissa d'Acosta, parce que là encore, Mélissa d'Acosta, dans les 2 ou 3 années qui viennent de passer, on a tous lu, voilà, bon, le livre, je ne sais plus le titre, mais le livre qui se passe en Australie. Voilà, et puis son premier livre aussi, et puis Tout le bruit du Guélise de Ruben Baruch, je ne sais plus qui a demandé ce livre, mais après on est toujours ouvert, hein, voilà, toutes les propositions, voilà.
En plus de vos rencontres régulières, vous organisez également des événements avec des auteurs, pouvez-vous nous en dire un peu plus ?
Alors bon, ça on le fait bon si on peut, c'est pas forcément évident, mais c'est plutôt s'il y a parmi nous des personnes qui sont en contact avec des auteurs. Alors donc on a eu une autrice, Lénaïque Guédard, qui est venue et qui est bretonne, voilà, et donc elle a écrit un livre qui est le fil du lin, je sais plus, enfin bon voilà, je sais plus très bien le titre, et elle est venue nous présenter son livre, voilà, elle est venue nous présenter son livre qui est bon très breton, qui se passe en Bretagne, enfin bon donc voilà, donc pardon, on a tous été emballés, et voilà, et par sa présentation, donc, et puis elle a écrit d'autres livres, un qui se passe en Inde, enfin etc, donc elle nous a aussi un peu parlé, et bien sûr aussi Paroles de Bretonne je sais plus non plus, voilà, mais bon c'était voilà, c'était bien parce que c'était aussi un livre bon qui se passait en Bretagne, et puis aussi voilà, surtout voilà, de Anne Lecour, Les discrètes paroles de Bretonne, donc c'était intéressant parce qu'elle nous a expliqué comment elle avait recueilli ces paroles-là en allant donc surtout dans les campagnes bretonnes pour recueillir les paroles de ces bretonnes d'ailleurs extraordinaires.
Vous avez organisé aussi une soirée de sensibilisation sur l'autisme. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Alors oui, ça c'était un membre du groupe, voilà, une femme qui était très sensibilisée au problème de l'autisme parce qu'elle avait un petit-fils qui était autiste, et donc elle a souhaité voilà, nous parler du quotidien, voilà, de cette famille, voilà, avec cet enfant, et bien sûr elle nous a aussi conseillé des livres qui traitaient de ce problème pour nous sensibiliser à ce problème.
Vous êtes combien dans...
Alors, on est 10, voilà, mais on pourrait être plus, voilà, on attend, voilà, d'autres adhérents, ce qui fait que, bon, comme en début d'année, eh ben, à peu près, bon, la Maison Bleue, en fait, propose un budget pour... acheter les livres voilà, qu'on a sélectionnés. Donc il y en a une dizaine chaque année. Et comme ça, bon, ben, on sait que la deuxième fois on se retrouve, donc en octobre, chaque année, eh ben, on aura chacun un livre nouveau à lire. Et après, pendant toute l'année, eh ben, on parle chacun des livres qu'on a lus voilà, chez soi pendant le mois. Et puis, voilà, eh ben, on donne les critiques, on encourage voilà, les uns et les autres à lire ou à pas lire, si on a aimé ou pas aimé. Donc, voilà, ça se passe comme ça. Et puis, ce qu'on fait aussi, c'est que bon, on apporte aussi des livres qui sont pas forcément dans la liste, bien sûr. Bon, voilà, qu'on a bien aimé. Et puis chacun, voilà, présente les livres qu'il a, bon, par exemple reçus à Noël ou bien pour les anniversaires ou bien qu'il a eu envie d'acheter, voilà, ou bien dont il a entendu parler souvent sur les médias, dans les émissions, sur les livres. Et comme ça, bon, ben, voilà, ça permet aussi de développer, enfin, d'enrichir tous les livres que l'on a depuis qu'on avait sélectionné en début d'année.
Dernière question, comment voyez-vous l'avenir du groupe de lecture de la Maison Bleue?
Ben moi, je vois ça plutôt plutôt positivement, parce que bon, finalement, je me dis on tient quand même depuis presque 10 ans, donc ça continue. Maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que bon, par rapport à la Maison Bleue, on fonctionne en circuit en fait, externe, interne, mais en tout cas, il n'y a pas de perte, parce que tous les livres que l'on sélectionne en début d'année, qui nous sont donc qui nous sont offerts donc finalement dans le groupe par la Maison Bleue, en fait après à la fin de l'année, eh ben, on les met dans l'espace lecture, donc ils sont en effet proposés aux personnes qui sont inscrites à l'espace lecture et qui viennent emprunter des livres, voilà, donc c'est un circuit où il n'y a pas de perte, les livres sont toujours là et après ils sont toujours lus par d'autres personnes qui ne font pas partie du groupe, donc on est content de se dire aussi qu'on a choisi ces groupes, ces livres, je veux dire, on a choisi ces livres et qu'après, ben, ils seront en effet, choisis par les lecteurs potentiels de l'espace lecture.
Merci encore pour cette belle présentation, Béatrice. Nous vous souhaitons plein de succès avec le groupe de lecture de la Maison Bleue. Et puis, à la prochaine, peut-être.
Merci à vous, Toufik, merci à vous.
Presque imperceptible, un souffle, un murmure, un frôlement. Dans l'ombre, tout devient possible. Les contours s'effacent, les limites disparaissent, les rêves naissent. Il s'élève léger, flottant comme des filaments d'un tissu qu'on ne peut tisser. Tu les sens autour de toi, ils te caressent, ils t'enlacent. Tout paraît fluide, naturel, comme si la gravité n'était qu'un souvenir lointain. Mais au moment où tu crois pouvoir les saisir, ils reculent, s'échappent à chaque battement de cils, à chaque souffle, ils s'éloignent un peu plus. Tu tends la main, mais rien, toujours rien. Au matin, il ne reste que des échos, des éclats de lumière, des morceaux de brume, des fragments d'un monde que tu ne peux pas garder. Et le jour, avec sa lumière trop franche, balaye tout ce que la nuit avait laissé. Les rêves ne sont plus que des traces, des empreintes dans le sable. La réalité revient, mais elle aussi te semble floue maintenant. Les murs, les objets, les visages, tout paraît se dissoudre, comme si ce monde n'avait jamais été aussi solide que tu le croyais. T'interroges, est-ce la réalité qui devient de plus en plus lointaine? Où sont-ce les rêves qui te retiennent, qui te gardent un peu plus chaque nuit? Tu ne sais plus où tu te trouves. Les frontières s'estompent, le réel se fait moins tangible, moins certain. Les rêves n'ont jamais voulu rester, ils te frôlent, te glissent entre les doigts. Et chaque matin, ils te laissent avec ce vide, ce sentiment d'avoir perdu quelque chose que tu n'as jamais vraiment eu.
mais chaque soir tu y reviens et t'y abandonnes, espérant que cette fois ils t'offriront un peu plus qu'un murmure. Et la réalité, elle devient une toile que tu ne parviens plus à déchiffrer. Un tableau sans contour, une image qui s'effond avec le reste. Les détails t'échappent, tout semble se mélanger. Peut-être est-ce toi qui te dilue entre ces deux mondes sans jamais vraiment appartenir à l'un ou à l'autre. Les rêves s'évadent, mais toi aussi, tu t'évades un peu plus chaque jour. Un pas dans le rêve, un pas dans le réel, mais toujours sans équilibre, toujours entre deux. Et peut-être, finalement, c'est là que tu te perds. De lumière, des morceaux de brume, des fragments d'un monde que tu ne peux pas garder. Et le jour avec sa lumière trop franche balaye tout ce que la nuit avait laissé. Les rêves ne sont plus que des traces, des empreintes dans le sable. La réalité revient, mais elle aussi te semble floue maintenant. Les murs, les objets, les visages, tout paraît se dissoudre, comme si ce monde n'avait jamais été aussi solide que tu le croyais. Tu t'interroges, est-ce la réalité qui devient de plus en plus lointaine? Ou sont-ce les rêves qui te retiennent, qui te gardent un peu plus chaque nuit? Tu ne sais plus où tu te trouves.
Et voilà, c'est déjà la fin de cette première émission d'Évasion des mots. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à écouter qu'à découvrir ces œuvres et ces auteurs fascinants. Je tiens à remercier nos invités du jour, Nadia Alcaraz et Béatrice du groupe de lecture de la Maison Bleue, pour leur partage et leur générosité. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours, le lundi 4 novembre à 19h, pour un nouveau numéro d'Évasion des mots. Nous continuerons notre exploration littéraire avec d'autres auteurs, d'autres œuvres et toujours autant de passion pour les mots. En attendant, restez curieux, continuez à lire et prenez soin de vous. À très bientôt sur CLAB 88.4 FM.
Les pages tournent, évasion des mots.